Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir le public incroyable. Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver dans cette émission extraordinaire. Bonsoir, merci d'être là. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en direct sur Twitch. Bonjour à vous si vous nous regardez en replay sur YouTube. Et bonjour à vous si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi sur Twitch en direct. Bonsoir le chat, vous êtes en face de nous, vous êtes avec nous, le public vous voit aussi. Vous êtes magnifique, bienvenue. On va parler de politique ce soir. On a une programmation assez chouette. En invité de la semaine, en première partie d'émission, on a décidé qu'on allait discuter de chirurgie esthétique et de réseaux sociaux avec deux journalistes qui ont sorti un bouquin il y a seulement 15 jours sur le sujet. Elles viendront nous en parler. Et en deuxième partie d'émission, notre invitée politique de la semaine, ce sera Naïma Moutchou, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a eu une actualité pas plus tard qu'aujourd'hui, particulièrement intéressante, à l'Assemblée nationale. Vous retrouverez évidemment vos chroniques préférées également avec le PowerPoint de Vincent et la vie d'Adèle. Ce soir, pour cette émission, je suis entouré des meilleurs et des plus forts et des plus fortes. Je suis avec Chloé, donc. Salut Chloé.
Salut.
Ça va?
Voilà. Bah, super bien.
Très heureux de t'avoir à nouveau sur le plateau. Chloé, tu es haute fonctionnaire, tu es co-directrice de l'Institut Rousseau, qui est un think tank de gauche écolo.
Ouais.
T'es cofondatrice également de l'association qui s'appelle Mieux Voter,
ouais,
et qui promeut le jugement majoritaire.
Et ouais, vous en avez parlé la semaine dernière sans
mais
moi.
Mais c'est pas nous qu'on en a parlé, c'est Jérôme Gage, notre invité de la semaine dernière,
qui a dit... J'étais agréablement surprise.
Mais oui, que la primaire de la NUPES en 2027...
C'était au jugement majoritaire, rebelote.
Ça. Si ça, ça se ferait sûrement au jugement majoritaire. Qu'est-ce que c'est donc le jugement majoritaire ?
Le jugement majoritaire, c'est une toute autre façon de voter. C'est un nouveau mode de scrutin qui est issu de la recherche française, qui a été inventé par deux directeurs de recherche au CNRS en 2007. Et plutôt que de nous demander de choisir un candidat, aujourd'hui on vote en choisissant un candidat parmi X candidats, avec le jugement majoritaire, on évalue tous les candidats, on donne son avis sur tous les candidats en leur attribuant une mention sur une échelle de valeur, donc qui va de excellent à rejeté, donc excellent, très bien, bien, etc. Et c'est le candidat le mieux évalué par une majorité qui remporte l'élection.
Et la primaire populaire s'en était servie. Hein.
Et la primaire populaire s'en était servie. Et pour une primaire, ça fait sens parce que qu'est-ce que produit le mode de scrutin qu'on a actuellement ? Il nous force à choisir, il nous force parfois à voter utile. Et dans le cadre d'une primaire où, a priori, les électeurs, ils apprécient plusieurs candidats,
ouais,
ça n'a pas de sens de leur demander de choisir un plutôt que l'autre, mais ça a beaucoup de sens, en revanche, de leur demander de les évaluer. Et a priori, ils les évalueraient tous plutôt bien. Et ça, ouais, évite de créer des camps l'un contre l'autre. Donc voilà, ça fait vraiment sens dans le cadre d'une primaire.
Il y a quelqu'un qui dit tu peux voter plus pour ton candidat et moins pour les autres. Tu peux.
Tu peux.
Si tu veux, si
bien
c'est
sûr
ta manière à toi. Il n'y a aucun problème. Tu peux dire ils sont tous nuls sauf lui ou elle. Tu peux. Tu peux aussi dire ils sont tous géniaux.
Exactement.
Tu peux,
et
si
tu peux nuancer en disant il y en a un qui est plus génial que l'autre, mais après tout, je les aime tous. Voilà.
Donc voilà, on en reparlera de cette primaire de la NUPES si elle existe. On verra. Ce sera marrant. Avec nous aussi, Malek. Salut Malek.
Salut tout le monde. Salut le chat.
Ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau de Backseat,
ouais,
Malek.
Super content parce qu'au moment où tu as dit mon prénom, il y a quelqu'un dans le chat qui a parlé de mon ancien lycée. Donc c'est-à-dire que j'ai quelqu'un de mon ancien lycée qui est en train de me regarder.
Arrête, c'est quoi ton ancien
et
lycée?
C'est ouf. Le lycée Romain Rolland à Argenteuil.
Et on passe un gros big up à tous
on
les lycéens.
Un big up à tout le monde. Comment tu vas, Jean?
Bah écoute, ça va et toi?
Bah moi je suis là donc ça va.
Bah écoute Malek, toi t'es conseiller en communication politique,
yes,
ancien chroniqueur dans Touche pas à mon poste.
Exactement, et balance ton poste.
Et balance ton poste, ouais. C'est quoi ton actu à toi?
J'arrive, j'en ai parlé la dernière fois dans Backseat.
Ah,
j'ai eu plein de textos.
Allez.
Et on arrive vraiment bientôt sur internet, sur YouTube. Allez, je balance tout. On va faire des discussions avec des gens intéressants, des artistes intéressants. Et ça va être très simple.
Mais c'est une exclu, ça, t'en avais jamais parlé.
J'en ai jamais parlé.
Allez, ça
et
fait plaisir.
Mon coprod va me défoncer, mais c'est pas grave. Il m'a déjà défoncé au début du mois de février, mais c'est pas grave.
Eh ben, écoute, très heureux que tu débarques sur YouTube, Malek, pour faire des trucs cool. Ça fait plaisir. Avec nous aussi, Léa. Salut, Léa.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Ça va.
Léa, podcasteuse.
C'est ça, toujours.
Tu fais notamment le podcast Popol qui parle d'actualité politique avec des femmes.
Mm-hmm.
Comment ça va, toi?
Eh bien, écoutez, ça va pas mal. Pas mal de projets en cours.
Ah ouais? Des trucs dont tu peux parler ou...
Oui. Je suis en train de travailler sur un deuxième livre.
Allez.
Où ça parlera sans trop de surprises de féminisme et de politique.
D'accord.
Histoire, je suis un peu monomaniaque
parce
en ce moment.
Parce que le premier parlait des femmes en politique.
Changera.
Du coup, le
ouais.
deuxième parlera de quoi?
Du féminisme en tant que véritable projet politique.
Ah, ok, d'accord.
Voilà. Je vous laisse la surprise. Ce sera pas avant l'année prochaine dans tous les cas. Et entre temps, il y a le poche du premier qui est sorti aujourd'hui.
Ah, vas-y,
oh.
Je peux le jeter dans le public ou pas?
Ah ouais, vas-y.
Cool.
Attends, en vrai, on va en parler d'abord de... File-le-moi. Donc, plus de femmes en politique, le livre... Ah bah, on regarde, en plus, on a la couverture. Incroyable. C'est aux éditions Pocket. Et c'est sorti en poche, ça y est, pour la modique somme de...
8 euros.
8 balles.
Chez vos libraires préférés.
Et bah écoute, c'est trop trop cool. Bah tiens, offre-le à qui tu veux, effectivement.
Hop. Alors je le lance, je vais essayer de pas shooter une caméra au passage.
Ouais, si tu arrives.
C'est comme les bouquets au mariage.
Ah oui, du coup, j'avoue, j'ai fait du honte. Wow. Mais...
Celui qui reçoit écrira un livre dans l'année qui vient.
Oui, exactement.
Les fleurs pour le mariage, il se mariera dans l'année qui vient. Vas-y, à l'envers.
Et je vous le signe, celui ou celle qui le chope, je vous le signe à la fin.
La régie en PLS.
Allez hop. Je regarde ça.
Let's go. Il l'a eu, incroyable. Il a gagné un livre. Il a perdu un œil. Formidable. Trop cool. Ça fait plaisir. D'ailleurs. J'ai vu que sur France Info cette semaine, ils ont fait un plateau avec toi.
J'ai
et
embarqué
Sacha.
Sacha, ouais.
La reconstitution de Ligue 10 août.
On parlait de foot, j'étais faut appeler Sacha.
Ils étaient
là, vas-y, let's go. Donc du coup, il y a une espèce de reconstitution de Blackseed sur France Info. C'est pas du tout la même ambiance, hein, je vous garde.
Non mais en fait, je l'ai pas vu.
Ça n'a rien à voir.
Vous avez raconté des conneries?
Ah bah non, pas du tout.
Ah non, c'est ça, vous avez été
sérieux. Moi, j'ai juste fait une petite sortie de route à un moment donné en faisant un parallèle entre Le Graët et Abad. Ça n'a pas plu aux journalistes.
Ouais, c'est pas pareil, oui.
Il y avait le VP de Renaissance en face de moi, donc du coup...
La pêche était...
Pour moi, ça avait un peu du sens. Et il parlait d'exemplarité, à ce degré de responsabilité, tout ça. Et moi, j'étais là, OK.
Non, mais tu vois, ça fait toujours très plaisir de voir les chroniqueurs et chroniqueuses dans d'autres médias. Mais tenez-vous bien.
On a fait les photos, tout ça. Le lobby Backseat, comme a dit Sacha.
Le lobby Backseat, exactement. Alors, chers amis, cette semaine, dans les sujets de la semaine, on va parler de choses absolument fascinantes. C'est parti pour les sujets de la semaine. Incroyable, merci le public. Sujet dont on voulait parler avec vous cette semaine, chers amis, on voulait parler du service national universel. Pourquoi vous vous marrez? On peut être sérieux 2 minutes dans cette émission, s'il vous plaît? Le service national universel, c'est un dispositif qui avait été promis par Emmanuel Macron en 2017 et qui consiste à proposer un parcours d'engagement à des jeunes en leur proposant notamment ce qu'ils appellent un stage de cohésion de plusieurs jours, encadré par des animateurs professionnels dans un lieu dans lequel les jeunes sont hébergés en plus de là où ils ont leurs activités. Il y a une dimension militaire à ce parcours de cohésion, à ce séjour de cohésion, mais il n'y a pas que ça. Et le service national universel était donc une idée proposée par Emmanuel Macron qu'il a mise en œuvre au cours de son premier quinquennat dans l'idée d'en faire un outil pour renforcer les valeurs de la République auprès des jeunes, leur permettre de découvrir l'engagement, le bénévolat, le monde associatif, etc. Le service national universel a été mis en place au cours du premier quinquennat, il a été expérimenté dans quelques départements, puis a été élargi à tous les départements, donc maintenant tous les jeunes qui le souhaitent, sur la base du volontariat, peuvent avoir accès et faire un service national universel. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que l'on sait que le président de la République, Emmanuel Macron, a le souhait, il l'avait dit dans sa campagne présidentielle de réélection, de généraliser le dispositif. Donc que ce dispositif ne concerne plus 40 ou 50 000 jeunes, comme c'est le cas aujourd'hui chaque année, mais qu'on aille vers toute une classe d'âge chaque année, donc 800 000 jeunes, qui pourraient participer à ce dispositif. Et il se trouve qu'Emmanuel Macron a décidé de décaler à plus tard les annonces qu'il devait faire sur les modalités de cette généralisation qu'il appelait de ses voeux, en attendant notamment que passe la fronde de la réforme des retraites. Et il y a des journalistes du journal Politis qui ont sorti un article cette semaine, puisqu'ils ont réussi à mettre la main sur un document de travail interne au ministère de la Jeunesse, présentant des pistes de ce qui allait être a priori présenté bientôt par le président de la République. Voilà pourquoi c'est dans l'actu. Voilà pour cette présentation du Service National Universel. Vous êtes incroyablement beaux et belles tous
beaucoup.
Les trois.
Oui, chef. Discipline.
Discipline.
Engagement.
Est-ce qu'on t'appelle Jean ou chef? C'est ça la question.
Adjudant.
Adjudant.
Non, l'adjudant, c'est l'alcoolique. C'est Jean. Je sais jamais.
Quoi, c'est l'alcoolique.
Oh, ça va. Mais non, c'est dans le sketch de...
Est-ce qu'il y a la vidéo, là, qu'on...
Alors oui,
Est-ce qu'on va avoir la chance de regarder cette petite...
Bouge pas, je vais l'envoyer, la vidéo. Parce que, donc, du coup, quand je continue à contextualiser ce dont on parle...
Ah, il y a quelqu'un dans le chat qui dit adjugeant, c'est pas mal, ça.
Adjugeant. Ah oui, adjugeant.
Adjugeant,
c'est validé. Adjugeant, ça passe. Garde à vous pour tout le monde et tout, par contre. Valeur de la République, tout ça, ça rigole pas.
Le chat a du talent.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, au moment où on a parlé, au moment où Politis a sorti son article, ça a été l'occasion de reparler du SNU. Une question au gouvernement a été posée à l'occasion d'un stream de la chaîne Twitch de Jean Massier. Abonnez-vous. Il y a eu également des tribunes et des articles qui sont sortis dans les journaux, notamment dans Libération. Et il y a une vidéo qui est sortie qui a beaucoup tourné. Je vous propose qu'on en regarde un extrait. Voilà à quoi ça ressemble le séjour de cohésion du SNU.
À mon commandement, garde à vous.
C'est tellement cringe, les gars.
Non, c'est mis encore après.
La rigueur.
Oh, non, on a décidé qu'on allait s'arrêter là.
Oh non.
Mais on n'a pas les droits
et
de
la,
diffusion.
Et la danse. Ouais.
Non, c'est pas une danse. Ce sont des exercices de karaté au cri de SNU, SNU, ouais. Tout ça.
À ne pas reproduire chez soi tout seul.
On a aussi vu des vidéos où les jeunes dansaient. Je sais pas comment on peut qualifier cette danse, mais la Zumba.
En uniforme SNU.
Ouais. Vous pouvez aller voir ça sur Twitter si vous êtes curieux.
C'est
ça vaut son pesant.
On va pas y aller.
C'est le scout d'Europe quand même un peu.
On va pas y aller par quatre chemins, les amis. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler en live sur ma chaîne. Moi, je ne peux pas avoir de neutralité sur ce sujet. Je suis radicalement opposé à la généralisation et surtout au caractère obligatoire du SNU. Je n'ai rien contre le dispositif en l'état, sauf que ce que vous venez de voir et la méthodologie et l'idée même de le rendre obligatoire va à l'encontre de l'idée philosophique qui sous-tend la création de ma chaîne et de cette émission, etc. Donc, je suis opposé à un caractère obligatoire, quelles que soient les modalités d'obligation du SNU. Mais une fois que j'ai dit ça, est-ce qu'on peut essayer d'avoir une analyse politique sur ce dispositif, ce qu'il dit, d'où il vient, comment il s'articule, etc. Qui veut se lancer? Chloé?
Allez. Alors, le SNU, déjà, c'est quoi? C'est un séjour de cohésion de 12 jours. Mmh. Et c'est une mission d'intérêt général de 84 heures. C'est bizarre de présenter comme ça. 84
heures. C'est très précis.
Et après, vous pouvez poursuivre votre engagement pour 3 mois minimum. Mais le SNU, pour valider ce qu'on appelle le SNU, c'est ça. Et on entend beaucoup de choses sur ce SNU. On dit que ça va contribuer à l'autonomie des jeunes, à leur engagement, que ça va favoriser la mixité sociale. Mais sur l'ensemble de ces points, on peut trouver de la nuance et je pèse mes mots. D'abord, sur la mixité sociale, c'est sûr, c'est pas en 12 jours de séjour de cohésion qu'on va régler ce problème. C'est vrai que c'est un vrai problème en France, la mixité sociale. C'est-à-dire que c'est un problème qui est territorial. Il y a un phénomène de ghettoisation territoriale dans notre pays. Une forme de séparatisme, avec des riches qui sont, pour faire vite, concentrés dans des métropoles. À Paris, les professions intellectuelles supérieures et les cadres, c'était 24% de la population en 1980. Aujourd'hui, c'est 46%. Donc la proportion de cadres à Paris a doublé. Et c'est la même chose dans toutes les autres métropoles, Toulouse, Lyon, Strasbourg, etc. Et donc c'est un problème, le problème de ghettoisation territoriale, de ghettoisation sociale, qui est énorme et qui produit des phénomènes de ghettoisation scolaire, parce qu'il y a une carte scolaire et donc le phénomène territorial se déverse dans un phénomène scolaire. Et donc moi j'ai l'impression que le SNU en réalité essaie de pallier à un échec qui est celui de l'école. Pour favoriser la mixité, mais aussi pour favoriser l'engagement citoyen. Parce que dans le cadre de ce SNU, il y a beaucoup d'éducation civique. On dit qu'il y a des formations contre les violences sexistes et sexuelles, les violences conjugales et tout. Mais normalement, ça, c'est censé être couvert en cours d'éducation civique.
Donc, l'ambition politique qui est de créer plus de mixité sociale n'est pas, selon toi, quelque chose de mauvais. En revanche, c'est
pas
un...
Pas mauvais du tout.
C'est
pas avec le SNU qu'on va régler ce problème.
D'accord, OK. C'est un coup d'épée dans l'eau, c'est une cuillère d'eau dans la mer, je sais plus comment on dit. Mais d'accord, OK. Donc, j'entends ce que tu dis. Il y a un problème grave de mixité et de ghettoisation géographique, etc. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te font remarquer « Ouais, mais le service militaire, c'était bien parce qu'il y avait du brassage social dans les casernes. Ça permettait à un Breton, un mec du Nord, un mec du Pays d'Oc, etc. de se retrouver et de faire le service ensemble. Ça créait de la République.
Bah, » Je réponds que c'était bien, mais je réponds qu'on ne va pas revenir à un service militaire qui durait... un an, je crois.
Une conscription.
Tu vois, on ne va pas revenir à ça. Et donc, on revient à un modèle où là, on propose 12 jours, mais même si on proposait 6 mois, C'est pas ça qui va régler le problème de la mixité sociale en France, qui dure toute la vie des gens. Ce qu'il faut faire, c'est des questions d'aménagement du territoire. On peut essayer aussi de jouer sur la carte scolaire.
Alors, on va en parler avec Malek, effectivement, qui voulait intervenir là-dessus. La mixité sociale, la mixité territoriale, toi aussi, tu y es favorable.
Oui.
Le SNU, il participe ou pas ?
Absolument pas. Quand j'étais collab parlementaire avec un ancien patron, on s'est inspiré de quelque chose qui se fait dans les autres pays, qui est contre la carte scolaire et qui s'appelle le busing. En gros, c'est au lieu d'aller dans l'école du coin, on prend le bus pour aller dans le quartier d'à côté pour favoriser justement cette mixité territoriale et mixité sociale. Ça marche très bien ailleurs, mais jamais la France a voulu y penser. Moi, je dis à chaque fois que chacun son boulot. À l'éducation populaire de faire son boulot, à l'école de faire son boulot, et donc mettons donc l'oseille, la thune, puisqu'il n'y a que ça de vrai, dans l'éducation populaire et dans l'école, et donnons les moyens à chacun de d'accomplir sa mission.
Ce qu'on appelle éducation populaire, pour préciser le jargon qu'on utilise, c'est tout ce domaine d'intervention du secteur, notamment associatif, mais aussi des collectivités, autour de l'animation pour la jeunesse en dehors du temps scolaire.
C'est ça.
Donc ça va être des séjours de vacances pour les enfants qui ne peuvent pas aller en vacances, ça va être de l'accès à la culture pour des enfants qui n'ont pas forcément les moyens. Ça va être... en fait, c'est beaucoup le secteur de ce qu'on appelle l'animation. Et on va retrouver ça partout, le centre aéré, le club de foot, le sport, etc.
Et ce qu'il faut dire, c'est que quand ces assos-là ont les moyens, ça marche, ça fonctionne. On le voit moi, j'ai à Argenteuil, j'ai grandi avec ça. Je remercie d'ailleurs tous les éducateurs qui nous ont accompagnés quand on était gamins, parce que sinon, on aurait pu se perdre. Mettons les moyens, c'est juste ça. Et tout le monde est dans un petit kiff de remilitariser le pays, pardon, j'y suis arrivé. La journée d'appel, la JAPD qu'on fait tous, elle ne sert à rien. Donc ils se sont dit comment on va essayer de vendre un petit peu l'ordre et l'autorité autrement. Bah voilà, le SNU. Bah franchement, j'ai eu le débat avec Sarah El Haïry.
La ministre chargée de la jeunesse, oui. Secrétaire d'État chargée de la jeunesse.
Elle sait que je suis farouchement contre. Donc voilà, elle m'a dit qu'un jour on en parlerait. D'ailleurs, je veux juste proposer un truc au chat, vu que j'ai une très belle casquette. Si le chat le veut, et seulement si le chat le veut, je propose d'envoyer par texto une photo de moi avec cette casquette à Sarah El Haïry pendant l'émission, mais seulement si le chat le demande.
Le chat va dire non, c'est sûr. Le budget.
Toi, tu sais bien comment ça marche, un chat. Hein. Ça se voit.
Tu vois, ils sont tous contre.
Léa, est-ce qu'il existe des expériences à l'étranger dont le SNU s'inspire et qui montrent que ça marche ?
Alors, j'ai fait un petit tour d'Europe, Jean, pour préparer cette émission. Non, il n'y a pas. Il y a un truc qui se ressemble le plus, qui serait obligatoire, c'est le service militaire, qui existe encore dans quelques pays, à savoir la Finlande, la Grèce, le Danemark, l'Autriche, la Norvège, Chypre, etc. Sur le principe même du SNU, qui est en fait d'essayer de créer une espèce de sentiment d'appartenance à la nation, parce qu'il y a beaucoup de ça quand même, hein, le coup de faire lever à 6h30 du mat pour aller chanter devant le drapeau la Marseillaise, enfin vraiment le côté très républicain,
républicain.
Ouais. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très marqué dans plus que le côté militaire à mon sens dans la proposition en tout cas du SNU. Mais moi ce que je trouve un peu dommage c'est qu'en fait si l'on veut vraiment donner un sentiment d'appartenance à la société, je pense qu'il faut fondamentalement lutter contre les discriminations, lutter contre les inégalités, faire en sorte que finalement tout le monde ait les mêmes conditions pour avoir les mêmes chances. Et là, peut-être qu'on aura envie en fait de faire partie intégrante de cette société. Et pour le moment, ce qu'on voit, c'est que finalement, les jeunes sont quand même un peu mis à mal, notamment avec les réformes sur Parcoursup, la réforme du bac. Les profs sont sous tension avec ces réformes qu'ils ont vraiment du mal à mettre en place. Il y a un stress qui se crée pour l'avenir. Les jeunes sont vraiment, on l'a vu, la santé mentale des jeunes est au plus bas. Enfin, c'est une catastrophe. On a des milliers et des milliers de jeunes qui font la queue devant les banques alimentaires. Et la réponse du gouvernement, c'est on va mettre 2 milliards par an sur la table pour vous faire chanter la Marseillaise à 6h30 du mat devant le drapeau.
Oui, lever du drapeau.
Moi, ça m'inquiète un peu et je pense sincèrement qu'il y a peut-être d'autres priorités, d'autres façons de vraiment faire société. Parce qu'en fait, c'est ça qui est le principal enjeu et ce qui est aussi vraiment vanté par le gouvernement, c'est faire en sorte de créer de la cohésion. Et créer de la cohésion, comme le disait Malek, comme le disait Chloé, il y a des moyens de le faire avec d'autres solutions qui existent par ailleurs. C'est aussi mettre des moyens dans les choses qui existent, qui fonctionnent, notamment l'école.
Absolument. Par ailleurs, Emmanuel Macron n'était pas le seul candidat à proposer système qui se rapproche de près ou de loin à une forme de service. Alors, vous rajoutez le mot que vous voulez derrière, citoyen, français, national,
républicain,
républicain, etc. On pense à Marine Le Pen, je crois, qui avait prévu aussi de proposer un truc relativement similaire.
Mélenchon, sinon.
Et Jean-Luc Mélenchon avait proposé dans l'Avenir en commun, il y avait effectivement une proposition d'un service citoyen obligatoire, mais avec possibilité d'objection de conscience.
C'est pourquoi est-ce qu'on objecterait
Attention, j'ai ma conscience qui objecte. Pardon, je ne peux pas.
Du coup, c'est pas obligatoire, ou alors si c'est obligatoire, mais il faut être précis. Enfin, voilà.
Je sais plus ce que c'était
et surtout payer au SMIC.
Ouais.
Payer à hauteur du SMIC pendant la durée du service. Est-ce que le pognon règle le problème ?
Non.
surtout, ça
non, Jean-Luc.
Tu vois, il y avait une proposition aussi d'allocation d'autonomie pour les jeunes. Je pense que c'est de nature d'ailleurs beaucoup plus à favoriser l'autonomie des jeunes que le SNU, parce que c'est l'autonomie des jeunes, c'est un des objectifs revendiqués du SNU. Il y avait aussi la proposition de repas à 1 euro pour les étudiants, qui a été rejetée par la majorité il y a quelques semaines. Donc on les a, elles sont sur la table, les solutions pour favoriser l'autonomie des jeunes, pour favoriser leur épanouissement. Honnêtement, ce séjour de cohésion de 12 jours où on fait le lever du drapeau et des pompes tous les matins en se levant à 6 heures du matin, je pense pas que ça va régler le problème de la jeunesse dans ce pays, comme tu l'as dit justement, Léa.
Et je après, sais pas qui ça fait kiffer en plus, vraiment.
Il y en a que ça fait kiffer. Et c'est pour ça que moi, je voudrais préciser mon opposition. Encore une fois, je ne suis pas opposé au service national universel dans la forme qu'il a aujourd'hui. C'est quelque chose de volontaire, sur la base du volontariat dans tous les départements. Il y a une dimension militaire qui n'est pas mon truc à moi, mais qui peut être le truc de quelqu'un. Et si c'est ton cas, il n'y a aucun problème. Allez faire un SNU et je trouve ça chouette. Si ça vous plaît, si vous pensez que c'est bien, que ça vous permet de vous engager, c'est chouette. Je trouve que ça coûte, que c'est énormément d'argent dépensé dans un dispositif alors qu'il en existe d'autres qui eux aussi auraient besoin d'être soutenu. Je préférais qu'il existe un panel de possibilités d'engagement pour des jeunes pris en charge par l'État et qu'il existe Erasmus+, si vous voulez le faire à l'étranger, qu'il existe le service civique, si vous voulez le faire dans des assos ou dans des collectivités, avec quelques améliorations du service civique qui ne marchent pas toujours aussi bien qu'on le voudrait, avec le SNU pour ceux qui veulent, avec les séjours militaires, là, les, je ne sais plus comment ça s'appelle, les préparations à la défense.
JAPD.
Non, pas JAPD.
Ah, c'est la journée,
journée d'appel...
Les préparations militaires, c'est ça, les prépas militaires qui existent, qui sont ouverts aux jeunes et tout. Très bien, si c'est votre truc, si ça vous plaît, allez-y, foncez. Je trouve que c'est bien, que ça existe, etc. Au demeurant, d'ailleurs, ça a été rappelé par un article du Monde sur la loi de programmation militaire qui va arriver. Il y a une nécessité qui commence à être de plus en plus claire du côté du ministère de la Défense de dire qu'il va falloir remilitariser les esprits dans le contexte de la guerre en Ukraine, en Europe, etc. Il y a des réflexions intéressantes à avoir sur le lien entre la nation et l'armée. Why not imaginer des dispositifs. Donc voilà, moi je ne suis pas opposé par principe au SNU. Ça ne tourne pas que autour des pompes à 6 heures du mat, il y a d'autres trucs dedans. Donc tout ce qui va dans le sens de l'engagement, moi je suis pour. Je suis radicalement opposé par principe au caractère obligatoire. L'engagement, ça ne se force pas. Les valeurs de la République, ça ne se force pas. Et non, chanter la Marseillaise devant un drapeau qui se lève, ça n'a jamais fait rentrer les valeurs de la République à personne. Et c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est mon point de vue et on peut être en désaccord avec ça. Je vous propose qu'on enlève ces casquettes très très moches et qu'on passe au sujet suivant. Et qu'on passe au sujet suivant.
Ah, c'est mieux.
On va devoir aller très rapidement parce qu'on est en retard. Malek, est-ce que tu peux nous faire un point ? Malek et Léa, est-ce que je peux vous demander de faire un point, une intervention chacun sur la Fédération française de football. Noël Le Graët a présenté sa démission, ça y est, cette semaine, c'était attendu, c'était un feuilleton. Première question, d'abord Malek, c'est quoi la FFF pour un mec comme moi qui n'y comprend rien ?
Alors la FFF, c'est donc une association, la fédération qui organise les clubs de football, qu'ils soient amateurs ou professionnels, et qui organise les compétitions nationales et qui gère aussi toutes les équipes nationales, féminines, masculines, des équipes de jeunes et des équipes de futsal. Elle compte 2 millions de licenciés, 1,9, donc presque 2 millions. C'est la première fédération. La deuxième de tennis est à 700 000 ou 800 000.
Okay.
Donc vraiment, c'est un gros truc. Noël Le Graët, parce qu'on en parle beaucoup, mais qui c'est ? C'est un chef d'entreprise à la base qui a fait son succès dans l'agroalimentaire, qui est devenu ensuite président du club de Guingamp, du club de foot, qui est devenu ensuite maire de Guingamp pendant deux mandats, qui connaît très très bien les liens avec le politique et les jeux de pouvoir, et on va en parler juste après. Et il s'en est jamais caché d'ailleurs d'aimer ce lien avec le pouvoir. Alors comment ça fonctionne la FED ? On a ramené un petit organigramme pour vous expliquer tout ça. Donc il y a un comité exécutif avec Noël Le Graët, L'organigramme va arriver incessamment sous peu. Il y a l'Assemblée fédérale, c'est elle qui élit le comité exécutif. Alors c'est l'autre organigramme, les copains, c'est qui élit le comité exécutif, pardon, et le président.
Il a déjà été diffusé, mais vous allez pouvoir le remettre, les gars. Okay. Vous inquiétez pas, vas-y, continue.
L'Assemblée fédérale avec deux partis. À droite, vous avez la Ligue de football amateur, donc avec tous les clubs amateurs qui élisent des présidents de district, de département et des présidents de ligue, pardon, de région. Et ils sont donc dans l'Assemblée fédérale. Et vous avez tous les clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 qui sont dans cette Assemblée fédérale. Noël Le Graët, il a été élu à 4 reprises en 2011, en 2012, en 2017 et dernièrement en 2021. Et vous allez comprendre que c'est un petit peu House of Cards à la Fédération française de football et que Noël Le Graët est là parce que c'est un fin stratège et qu'il a toujours su évincer ses potentiels adversaires, ses potentiels concurrents en leur filant toujours un petit poste ou une petite place qui pouvait leur faire plaisir.
Quoi qu'il en soit, il a présenté sa démission.
C'est ça.
Cette semaine, en quoi est-ce que c'est nouveau et qu'est-ce que ça dit du coup du dysfonctionnement de la FFF ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont reprochées en réalité depuis très longtemps à Noël Le Graët sur plein de sujets. Et c'est le comité exécutif qu'on a vu tout à l'heure qui a poussé à la démission. Ça, c'est un coup de tonnerre parce que ça aurait pu arriver depuis très longtemps. Et c'est pas arrivé. Il y a le rapport dont va parler Léa juste après, mais il y a des affaires qui sont tout aussi graves, j'ai envie de vous dire. Je reviens dessus, mais il y a des conflits de management. Il est en conflit ouvert avec son ancienne DG, Florence Ardouin, qui vient d'être licenciée. On a eu plusieurs prises de parole de Noël Le Graët qui nous a dit que l'homophobie, bon, ça va, c'était moins grave que le racisme. Il nous a ensuite dit que bon, bah, de toute façon, le racisme dans le football, ça n'existe pas. Et voilà, il y a plusieurs choses qui ont été mises sous silence, des affaires, des accusations en tout cas, d'harcèlement sexuel avec des cadres de la fédération.
On va en parler.
Qui ont été mis sous silence.
Léa, tu peux nous expliquer, il y a eu des révélations du journal SoFoot, je crois, au début.
Exactement. En fait, ça a commencé avec SoFoot qui a fait une enquête sur un style de management un peu particulier, disons-le comme ça, de la part de Noël Le Graët, mais pas que. Hein. Il y a lui qui est visé principalement, effectivement, par des accusations de harcèlement sexuel et harcèlement moral. Donc, à l'issue de cette enquête, en fait, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a diligenté une enquête du ministère des Sports pour voir ce qui se passe au sein de la Fédération française de football. C'est une enquête qui a duré 4 mois et demi. L'équipe qui a enquêté a auditionné près de 115 personnes, donc quelque chose d'assez solide. Le rapport parle effectivement de textos à caractère clairement sexuel qui sont envoyés sans avoir été sollicités. Enfin bref, des choses très, très, très violentes, très inquiétantes. Et du coup, à la suite effectivement de ce rapport qui a été rendu au mois de janvier, Noël Le Graët a été suspendu pendant un certain temps. La ministre a pris la parole en disant que dans ces conditions, il n'avait plus la légitimité nécessaire pour pouvoir occuper ce poste. Et ça l'a un peu effectivement poussé vers la sortie. Sachant que lui porte plainte désormais contre la ministre en diffamation. Donc, ouais. Sans compter qu'il avait bien sûr porté plainte contre SoFoot, etc. J'en profite pour faire un petit point sur la question des violences sexuelles et sexistes dans le sport et du harcèlement moral et sexuel. Il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties ces dernières années. Et en 2020, le ministère a décidé de mettre en place une cellule pour justement pouvoir signaler, faire remonter ces cas. Depuis 2020, il y a plus de 600 cas qui ont été remontés, qui concernent 54 fédérations. Donc c'est quand même assez inquiétant.
Ah, il y a un phénomène. Ouais,
du coup, je me suis quand même intéressée à cette question et j'ai découvert un auteur qui s'appelle Philippe Lyotard, qui est anthropologue, professeur d'anthropologie du corps à Lyon 1. Et il a participé à un ouvrage qui s'appelle « Sport et virilisme ». Et il fait état, notamment dans cet ouvrage, du lien très fort qu'il y a dans le sport avec la culture de l'effort, de la virilité et du manque de respect des femmes. Sachant que sur les 600 accusations, les 600 cas remontés, signalement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 90% qui concernent des cas de violences sexuelles et 80% qui concernent les femmes. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce point. À retenir, c'est wait and see, puisqu'il y a une plainte en diffamation qui a été déposée par Noël Le Graët qui va. Donc il y a une plainte en diffamation, il y a une contestation devant la juridiction administrative du rapport qui a conduit à son éviction et finalement à sa démission. On suivra ça de près. Il a été recasé à la tête de la FIFA à Paris, donc il va rester dans le circuit du sport professionnel et du sport de haut niveau. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de Noël Le Graët.
Et il y a un président par intérim, Philippe Diallo, qui est là jusqu'en juin, jusqu'à la convocation convocation de la prochaine Assemblée fédérale, qui a pris la parole aujourd'hui devant les salariés de la Fédération en disant que pour 2024, il y aurait un comité exécutif qui serait entièrement paritaire et que les questions d'harcèlement sexuel allaient être sa priorité dans les prochains mois et les prochaines années.
Donc, on va continuer à suivre ça, mais il se passe des choses dans le monde du sport. Parfois, ça casse comme avec le Gret, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est aussi paradoxalement un nettoyage bienvenu d'un secteur qui, depuis longtemps, est réfractaire à des changements qui existent
disons
ailleurs.
Qu'on a la bonne ministre, en fait. Je pense que...
Oudéa Castara.
Pour le coup, ouais. Elle était d'ailleurs directrice générale de la Fédération française de tennis quand il y avait eu des affaires qui avaient été jugées. Et je pense qu'elle a vraiment envie de faire le taf, quoi. Ça se sent, d'ailleurs. Et bref...
Merci.
Affaire à suivre, mais j'espère que les choses évolueront.
On continuera à suivre ça, continuez à vous intéresser à ce sujet, il est passionnant.